Mia.
Mamma Mia, let me go. Beelzebub has the devil put aside for me. For me.
Bonsoir à tous et bienvenue si vous nous rejoignez ce soir sur IU Talk. Aujourd'hui, nous serons les dernières étudiantes de l'IUT de Digne-les-Bains pour parler ensemble du voyage. J'espère que vous allez bien. En tout cas, nous, ça nous fait très plaisir d'être avec vous aujourd'hui pour les 45 prochaines minutes. Donc, l'émission se déroulera aujourd'hui en trois parties avec, pour commencer, la philosophie du voyage, le partage d'expériences. Ensuite, nous verrons si c'est responsable de voyager. Et nous finirons par voir les astuces pour un voyage petit budget. Donc d'abord, je vais commencer par nous présenter. Donc on a Héloïse.
Coucou.
On a Emma.
Salut.
Et Laure.
Hello.
Luna.
Coucou.
Et moi, Mathilde, du coup. Donc je vais commencer par vous mettre une petite musique qui s'appelle « Outer Road » de Naaman.
Mr. Babylon.
Alors du coup, on va commencer avec la première partie qui est sur la philosophie du voyage et le partage d'expériences. À toi de commencer. Et pour, on est sur Fréquence Mistral de Digne-les-Bains sur le 99.3. Alors Luna, commence par nous dire ton partage d'expériences.
Alors, pour ma part, je ne vais pas parler réellement d'expérience, mais plutôt en fait de ce qu'on peut tirer comme expérience ou comment le voyage en fait ouvre-t-il l'esprit. À mon sens, en fait, voyager permet de garder une certaine souplesse d'esprit, de remettre en question nos façons de vivre, notre façon de penser, et de repenser comment on voit les choses suite en fait à avoir été confronté à la réalité de la vie des autres d'ailleurs, qu'ils viennent d'un pays proche ou carrément super loin. Et voilà, en fait, c'est plus ça, moi, pour moi, qu'il faudrait parler en termes d'expérience.
Et quelle personnalité, pour toi, représente ton idéologie du voyage ?
Eh bien, en fait, j'aime bien cette question. J'aimerais vous parler d'Antoine de Maximi, donc, qui est connu pour son émission « J'irai dormir chez vous », qui est du coup une émission que j'adore regarder. J'adore aussi le personnage. C'est génial ce qu'il fait, je trouve. Et en fait, pour moi, c'est une personne connue qui a sûrement le mieux appréhendé la réelle expérience de voyager, en fait, et qui en tire les meilleurs bénéfices. C'est un super exemple, en fait, d'expérience. Il a eu le courage de partir seul dans des pays très lointains qui sont parfois, en fait, qu'on estime risqués, dans lesquels on n'irait pas, en fait, naturellement. Et afin, en fait, de rencontrer des habitants et d'établir des réels liens sociaux avec eux et de se plonger, s'imprégner de leur mode de vie et de leur culture. Et je trouve ça super beau et génial. Et j'aimerais pouvoir faire ça dans ma vie plus tard, en fait. Et pour moi, c'est pas forcément cette manière de faire qui permet d'avoir des expériences très enrichissantes qui te grandissent humainement parlant, quoi.
Mmh. Ok, ouais, c'est intéressant, effectivement. Après, peut-être Laure a quelque chose à nous dire là-dessus.
Du coup, moi, je rejoins l'idée de Luna. D'après moi, le plus beau des voyages, c'est pas forcément de partir le plus loin, mais c'est celui qui nous rend heureux ou pendant lequel on se sent vivant. J'ai beaucoup voyagé à travers le monde avec ma famille durant mon enfance, et j'ai pu découvrir beaucoup de civilisations différentes, de modes de vie totalement différents. Et j'ai pu constater que les plus belles vacances, ce ne sont pas forcément celles qui sont passées à l'autre bout du monde, même si forcément elles marquent l'esprit et elles restent des expériences incroyables. Certains pays, ils sont très pauvres comparés à la France, et sur le coup, ils peuvent provoquer un choc culturel. Et pendant l'espace d'un instant, d'une semaine ou d'un mois, pendant les vacances, en fait, on est plongé dans un autre univers, une toute autre culture, avec des nouvelles traditions, des nouvelles spécialités culinaires, par exemple. Et on vit plein d'expériences super enrichissantes qui nous rappellent à quel point on a de la chance, on peut avoir de la chance dans la vie, et surtout quand on voit la pauvreté qui existe. Par exemple, lors d'un voyage au Népal, j'ai constaté du coup l'extrême pauvreté des populations qui vivent dans la poussière, et du grand nombre d'enfants qui sont à la rue. Et ça m'a beaucoup marquée, parce qu'on a envie de les aider, mais on ne peut pas forcément. Et ces souvenirs, ils restent gravés à vie, mais c'est vrai que le voyage, il déplace le corps, mais pas forcément l'identité à soi, parce qu'une fois qu'on rentre en France, on se souvient de ces souvenirs, mais on retrouve la vie active, on retourne à l'école, et on laisse peu à peu derrière nous les différences de culture, et les souvenirs, ils deviennent un peu plus flous.
Ouais, carrément, c'est ce que j'ai remarqué, moi, quand je suis partie aussi loin, c'est que ça m'a marqué, j'ai vécu des expériences super, et en même temps, quand on revient, c'est super dommage, parce qu'on oublie ce qu'on a vu, et donc ce qu'on aurait voulu changer dans notre quotidien. On a tendance à oublier que ailleurs, des jeunes de notre âge, ils vivent des choses totalement différentes, et que nos petits problèmes, etc., c'est pas si gros par rapport à la vie de certains autres jeunes dans d'autres pays. Et c'est ça qui, la philosophie, c'est de pouvoir réussir du coup à s'ouvrir l'esprit et à se rendre compte des chances qu'on a, etc. Pour moi, c'est ça qui est important aussi, et dans le partage d'expériences, c'est important aussi d'en parler, quoi.
Ouais, carrément, ouais. Et Emma, alors, on t'a pas trop entendu là, est-ce que t'aurais quelque chose à nous dire, interagir?
Ouais, alors en fait, pour moi, le voyage, c'est surtout des rencontres avec les gens. Ça nous permet d'élargir nos connaissances sur le monde. Et du coup, par exemple, et le voyage aussi, il nous permet aussi de nous faire grandir. Par exemple, cette année, je suis partie seule en Europe et j'ai pu découvrir plein de pays, des coutumes et plein de personnes qui m'ont beaucoup apporté. Et le voyage nous permet vraiment de vivre des expériences inoubliables et enrichissantes. Et ben, par exemple, personnellement, moi, j'ai surtout visité ben, des châteaux, enfin des musées, tout ça, sur l'histoire de chaque pays. Et justement, on peut voir que ben, en France, on apprend l'histoire de la France et tout ça, mais on ne voit pas forcément les autres pays en Europe qui ont tout autant à nous apprendre, comme par exemple Berlin, qui est vraiment la ville historique pour moi, qui a beaucoup de choses à nous dire au niveau de l'histoire. Et c'est super intéressant. Et aussi, ben, pour moi, le voyage, c'est pas aussi que synonyme de distance parcourue, mais c'est juste symbole de découverte et aussi le fait d'être dépaysé. On n'a pas forcément besoin de partir loin pour voyager, on peut aussi aller autour de chez nous et découvrir des choses. Et tant que ça nous apprend quelque chose sur le monde, pour moi, c'est voyager.
Alors, d'après ce que j'entends, t'es la seule qui me parle du voyage en France. Est-ce que pour vous, les autres, voyager en France, c'est pas un voyage du coup ? Ce serait forcément partir à l'autre bout du monde ?
Ben, c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent qu'un voyage, c'est vraiment partir loin, prendre, de la distance par rapport à chez soi et vraiment perdre tous ses repères. Mais pas forcément, en fait, parce que même en partant en France, on peut découvrir d'autres lieux, d'autres cultures, même d'autres habitudes, que ce soit culinaire, d'autres façons de parler. Donc ça permet aussi de se dépayser, de perdre tous les repères et d'apprécier aussi.
Ouais, carrément.
Moi, bizarrement, je suis assez d'accord. Aller en France, c'est intéressant, etc. On peut avoir d'autres... découvrir des choses, mais c'est vrai que moi, voyager en France, pour moi, ça marche pas trop. C'est chez moi et c'est quelque chose que je connais. Et du coup, ça me dépayse pas trop. Si je me déplace, etc., j'ai plus l'impression... de partir simplement en vacances, ça ne me donne pas le même effet que lorsque je vais ailleurs et que je découvre les gens d'ailleurs. C'est pas pareil, c'est quand même la même société, les mêmes problèmes de la vie et tout. Et du coup, ça me dépayse moins, c'est différent.
T'as quand même toujours cette sensation de rester chez toi au final.
C'est ça.
Ouais, mais pourtant, la France, je trouve, à travers ces régions, on peut découvrir plein de choses. On peut être dépaysé dans plein de régions. Je trouve que chaque région a... leurs choses à dire et personnellement je viens d'Alsace et c'est une région très riche en paysages, en vignobles, en plein de choses, mais pourtant dès qu'on part dans une autre région, y a toujours d'autres choses à voir. La France a plein de ressources et chaque région peuvent nous apporter des choses.
Moi, c'est vrai que je suis assez d'accord avec Emma, mais aussi avec Luna, parce que je trouve que on n'a pas le même état d'esprit quand on prend l'avion. C'est quand même une autre expérience. Et personnellement, je me suis déjà fait la remarque que partir en vacances en France ou pas très loin de chez nous, c'est pas pareil quand on rentre, quand on retourne à l'école. On n'a pas la même sensation, on n'a pas été déconnecté de la même manière. Et du coup, je trouve que prendre l'avion, c'est quand même pas pareil, ouais.
Ouais, c'est ça, je trouve que en fait la France, ça manque de découvertes. C'est bizarrement, mais parce qu'on le voit, on connaît notre pays finalement, même si on n'est pas allé partout, ça manque de découvertes. Alors que c'est ça que j'ai aimé quand je suis partie, mais même pas très loin, c'est les autres manières de vivre des gens et des petites coutumes comme ça, comme on voit en Espagne le jour de l'an ou à Noël, je sais plus, lorsque eux, leur coutume c'est de manger 12 grappes de raisin ou je sais pas quoi. C'est étrange cette façon de faire, mais c'est intéressant et c'est sympa de savoir pourquoi ils font ça et tout. Et c'est ça que je retrouve pas en France, vu que je suis française et que je connais la France en fait. Voilà.
Après, en fonction des régions, moi j'ai envie de te dire, on a quand même d'autres structures, d'autres paysages, une autre façon de penser, et même la culture, enfin niveau alimentaire, c'est pas la même, donc on va quand même découvrir de nouvelles choses. Enfin voilà, donc on va passer à la musique suivante qui s'appelle Milky Chance de Synchronize. The way we synchronize, we synchronize. Let the moment crystallize. Don't think twice. I just wanna simmer, like the way you come up. Faded fires all around. Tell me of a dreamer dancing on the ceiling. Wanna keep you safe and sound. And all Sur Fréquence Mistral de Digne-les-Bains 99.3 avec les étudiantes de l'IUT de Digne-les-Bains. Pour la deuxième partie, alors est-ce que c'est responsable de voyager, que ce soit éthiquement ou écologiquement ? Luna, qu'est-ce que tu en penses de ça ?
Alors, moi je vais relancer un sujet qu'on entend régulièrement depuis qu'on est un peu petit. On va parler réchauffement climatique là pour l'instant. C'est voilà, le GIEC estime qu'il faut rester sous la barre des 1,5 degrés Celsius d'augmentation des températures pour éviter le réchauffement climatique qualifié de grave et problématique à l'échelle mondiale. Donc voilà, petit détail. Et du coup, pour y parvenir, GIEC dit que nous devrions émettre seulement 3 tonnes équivalent CO2 par an par personne d'ici 2030. Donc, bon, ce chiffre semble important, on n'a pas trop de notion de quoi que ce soit, mais en fait, nos émissions d'équivalent CO2 s'additionnent super vite, en fait, quand on regarde un peu et qu'on s'y penche. Et en fait, surtout si on voyage avec en avion, en bateau, etc., voilà, on explose notre score. Et du coup, on peut constater que le monde du tourisme est l'un des secteurs en fait, les plus polluants et néfastes pour le climat, notamment à cause du transport, hein, clairement. Et du coup, pour essayer de contrebalancer un peu ce problème-là, on parle de tourisme responsable qui essaye de préserver les écosystèmes et le bien-être des populations locales. Et on parle aussi en fait de tourisme vert.
Et c'est quoi du coup ce tourisme vert ?
Le tourisme vert, c'est du tourisme local, plus on essaie de partir moins loin ou de changer de mode de transport à la rigueur si on veut se déplacer plus loin, ou faire du slow tourisme. Alors ça, c'est en fait du tourisme qui se fait sur une longue période, donc il faut pouvoir le faire, mais c'est comme un peu l'idée de woofing ou quoi que ce soit, c'est on essaie d'aller chez les gens, de partir loin, mais de faire plutôt des trucs à pied, faire du stop, enfin, donc, mais ça prend du temps du coup, parce qu'on se déplace sans rien, quoi. Donc il faut avoir sinon des vacances sur une longue période, hein, tout le monde ne peut pas le faire, ou du coup sinon aussi on peut simplement essayer aussi de faire du tourisme en nature, mais dans ce cas-là il faut faire attention, parce que quand on dit que le tourisme a un impact aussi sur les écosystèmes, c'est celui-là en l'occurrence, si les gens sont irrespectueux et qu'ils arrachent les fleurs, qu'ils marchent sur des mauvais sentiers qui sont protégés, là encore ça a un impact le tourisme sur l'écologie. Et du coup, essayer de faire du tourisme de nature, c'est en fait d'essayer de ne pas la dégrader, de faire attention et d'être en symbiose, entre guillemets, avec elle, quoi.
Et tu en penses quoi, du coup, de ce tourisme, enfin, de tout ça, tout ce que tu viens de me dire ?
En fait, je trouve que c'est des marches super responsables, c'est super bien sur le papier, c'est cool, je trouve ça bien. Mais je fais encore un peu partie de ces gens qui se demandent si c'est pas un peu injuste de demander toujours à une certaine tranche de la population d'éviter de voyager trop loin, afin de ne pas contribuer à son échelle en fait, au réchauffement climatique, d'essayer de faire attention, etc. C'est beau philosophiquement, c'est intéressant. Mais bon, moi personnellement, je n'ai pas forcément envie de me priver si j'ai le budget, les moyens et le temps de partir en avion, etc. pour voyager. C'est un côté de moi qui n'a pas trop envie non plus de faire des démarches, c'est compliqué. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais voilà.
Je comprends ce que tu veux dire, oui, c'est sûr.
Du coup, moi, pour ma part... Ayant beaucoup voyagé quand j'étais petite, j'avais pas conscience de l'aspect écologique et de la notion de bilan carbone, parce que quand on est enfant, on connaît pas forcément tout ça. Et c'est vrai que depuis l'arrivée du Covid-19, il y a une grande période où on était tous confinés, on a beaucoup moins voyagé, et du coup, on n'a pas pris l'avion. Et moi, personnellement, depuis cette période-là, j'ai très rarement pris l'avion. Donc oui, j'envisage de plus en plus les voyages sans prendre l'avion. Et ça rejoint aussi un peu la partie d'avant où on parlait de voyager, est-ce que c'est forcément très loin ? Du coup, non, depuis cette période-là, j'ai réappris à voyager moins loin en France. Et je trouve ça vraiment intéressant.
Ok, ouais, carrément. Et Emma, du coup, toi, qu'est-ce que tu penses si on revient sur le sujet... de voyager, est-ce que c'est éthique?
Ouais, on peut carrément voyager, enfin, éthiquement parlant. Je veux dire, par exemple, le train, il nous permet vraiment de voyager tout en ayant un impact en carbone assez faible. Il nous permet de parcourir de grandes distances assez rapidement, tout en arrivant à profiter des voyages, des paysages, pardon. Mais ça reste quand même un transport qui reste assez coûteux, donc il faut quand même le prendre en compte par rapport à l'avion qui, lui, est moins coûteux. Mais je pense que aussi voyager, on peut très bien voyager sans transport, comme par exemple faire la randonnée ou faire de longues distances à pied. Enfin, Compostelle, par exemple, y a des gens, ils partent des mois sur les chemins de Compostelle et ils voyagent juste avec leurs pieds. Et on peut aussi voyager en vélo. Après, c'est quand même des moyens qui demandent du temps. Je suis une fille aussi qui est bretonne et qui a décidé de partir faire le tour du monde en stop. Et je trouve que le stop, c'est aussi un moyen assez bien pour voyager. Et voilà. Après, il faut pas avoir peur, mais je trouve que c'est plutôt pas mal. En plus, venant d'une fille, aujourd'hui, on voit pas encore ça partout. Et c'est pas mal.
Je vois Héloïse qui fronce un peu les sourcils. Tu n'es pas trop d'accord pour le stop ?
C'est vrai qu'il faut avoir quand même, assez de courage et ne pas avoir peur des gens. Parce que surtout en étant une femme, surtout aujourd'hui, c'est de plus en plus compliqué de faire du stop ou même de prendre des gens en stop. On a toujours peur. Donc moi, j'opterais plutôt pour un mode qui est aussi un peu plus écologique, on va dire. C'est de voyager en van. C'est moins écologique forcément que le train ou que d'autres moyens de transport, mais ça permet aussi de se loger sur place. Après, comme partout, y a des règles à respecter, il faut faire attention de où on va dormir, à quel endroit, d'être sûr de déranger personne, et surtout en repartant de ne pas laisser de traces et de ne pas dégrader le paysage, parce que voilà, ça ne nous appartient pas, il faut en être conscient.
C'est sûr. Et j'ai vu Laure aussi qui nous a fait une tête.
Oui, moi je veux rebondir sur la notion de stop dont parlaient Emma et Louise. Et certes, c'est risqué, surtout quand on est une femme. Mais personnellement, j'ai jamais eu de mauvaises expériences en stop. Et du coup, je me dis que tant qu'on tombe pas sur des mauvaises personnes, on a toujours envie de continuer parce qu'à chaque fois... Enfin, pour ma part, à chaque fois, ça a été des expériences incroyables, des discussions super, on apprend beaucoup de choses sur la vie et c'est des belles expériences et les gens ont toujours des choses à nous apprendre.
Donc vous n'avez jamais eu de soucis avec le stop sur les expériences Même Emma, est-ce que tu as déjà fait du stop?
Ouais, un peu, mais j'ai jamais eu de mauvaise expérience non plus. Donc...
Surtout Paris, ça dépend des endroits, mais ici, dans la région et surtout dans le département... ils prennent beaucoup en stop et c'est là où j'ai fait le plus de stop et à chaque fois c'était des personnes vraiment très sympathiques
Et même voyager seule au final ça fait pas peur même si on est une femme quoi. Donc il faut pas hésiter.
Moi pour ma part le stop je suis pas très fan, enfin si on parle d'écologie c'est très bien, en tout cas pour la personne qui voyage en l'occurrence, mais c'est bien, c'est courageux, je le ferai pas seule dans ces cas là Mais après, j'aime bien les idées, par contre, de partir à vélo, où ça peut être super intéressant et enrichissant comme expérience. Il faut juste avoir les jambes qui le permettent, c'est tout. Il faut savoir pédaler longtemps, mais je trouve ça très cool, c'est sympa. Après, ce que j'aime bien aussi, c'est l'idée de si on veut faire écologie, un peu revenir sur ce que disait Héloïse en partant en van et en faisant peut-être du camping en nature, et finalement, c'est cool, il faut juste la respecter. Et c'est un bon moyen aussi de partir et de se dépayser, même si on est en France. Là, pour le coup, ça peut être sympa de découvrir des nouveaux paysages. Ça permet une certaine liberté, finalement, que je trouve intéressante. Et après, si je devrais parler d'écologie verte, c'est vrai que le train, ça reste une bonne idée aussi. Après, le problème, c'est que je trouve que pour voyager... tout de suite, si on veut partir loin, quand même, ça reste un billet, le train, parce qu'on ne peut pas aller jusqu'au bout du monde, quoi. Ou sinon, il faut avoir encore une fois le temps. Et c'est un peu le problème actuel de l'avion, c'est qu'en fait, si on veut aller loin, il faut utiliser l'avion ou le bateau. Et écologiquement, c'est compliqué. Mais en même temps, si on a envie de partir, c'est nécessaire. Voilà.
Oui, c'est sûr. Et même voyager en vélo, ça ne nous permet pas forcément d'aller à l'autre bout du monde. C'est aussi, ça prend beaucoup de temps, donc on ne va pas pouvoir voyager en fonction de votre définition du voyage, comme vous nous l'avez dit avant. Mais le train aussi, comme vous m'avez dit,
Je trouve que c'est un moyen de transport qui peut valoir cher en fonction de là où on veut partir. Donc, faut aussi trouver des solutions et des compromis. Alors, on va passer à la musique suivante qui sera Un autre monde de Téléphone. Après ce petit moment musical, on va finir sur la troisième partie avec Fréquence Mistral, Digne-les-Bains 99.3. Alors, qu'est-ce que vous pensez, quelles sont vos astuces pour un voyage petit budget ? Héloïse, dis-moi. Alors pour moi, effectivement, voyager pas cher, c'est pas quelque chose qui est spécialement compliqué. Il faut juste être conscient des activités ou des lieux où on va pouvoir dormir et avoir une vie simple, surtout, c'est ça la clé en fait. Aussi, il faut beaucoup s'organiser parce que forcément, chercher des petits campings ou des auberges de jeunesse, ça va demander une recherche pour pas tomber sur des hôtels au dernier moment et donc forcément payer beaucoup plus cher. Donc pour moi, je me déplace principalement en voiture parce que c'est un moyen de transport qui permet de voir du pays, qui permet aussi de se rendre où on veut, quand on veut, de ne pas avoir d'horaire et vraiment de pouvoir faire ce que l'on veut à peu près. Pour ma part, par exemple, je suis allée en Croatie en voiture. Et donc au lieu de prendre l'avion, par exemple, ou le bateau, ça m'a permis de traverser plein de pays comme la Suisse, l'Autriche, l'Italie, et donc de pouvoir profiter à d'autres moments. Après, forcément, il faut avoir du temps pour faire ces trajets, parce que c'est pas quelque chose comme l'avion qui va prendre seulement quelques heures. Voilà.
Donc là, tu m'as parlé des astuces pour le transport. Est-ce que tu en aurais d'autres, peut-être, pour le logement ?
Alors, pour le logement, donc, le plus classique, bien évidemment, c'est les campings. Donc, les petits campings à la ferme, comme ça. Souvent, ça coûte pas trop cher. Sinon, il y a aussi les auberges de jeunesse. Bon, après, il faut tomber sur des bonnes auberges de jeunesse, comme c'est pas toujours le cas. Ou bien, il y a aussi les Airbnb, voilà. Après, une autre solution aussi, si vous êtes pas trop timide et que vous voyagez en van ou en camping-car, vous pouvez aussi demander à l'habitant directement de dormir au bout du jardin, contre quelques euros ou une autre monnaie. Ça se fait très bien et ça marche souvent quand même. Et c'est bénéfique des deux côtés, donc ça, c'est un avantage.
Oui, il faut oser le faire aussi quand même.
Oui, c'est sûr.
C'est sûr que c'est intéressant. On peut découvrir un peu des nouvelles personnes grâce à ça.
Oui, ça permet aussi de faire des rencontres, de discuter avec d'autres personnes.
Et est-ce que tu aurais encore des astuces pour des activités pas trop chères ?
Alors, pour les activités, du coup, il y a deux possibilités. Soit vous êtes dit que vous avez fait des économies en voyageant et pour vous loger, donc pour les activités, vous dites c'est pas grave. Et donc de faire des activités payantes, que ce soit sportives ou culturelles. Ou bien, sinon, si vous restez toujours dans ce modèle, on va dire, pas trop cher, vous pouvez anticiper les activités que vous allez pouvoir faire dans les lieux que vous allez visiter. Et donc, acheter du matériel d'occasion, par exemple, un paddle d'occasion. C'est pas donné à tout le monde, bien sûr, mais au final, quand on regarde la location sur quelques jours, le paddle est vite rentabilisé. Et puis, il servira toujours après. Bon, il faut avoir aussi de la place dans la voiture, ce qui n'est pas toujours le cas. Après, sinon, il faut se contenter à des choses simples, donc des randonnées, des visites de village, rien de bien compliqué.
Et Emma, avant, tu nous as parlé du train. Qu'est-ce que tu peux nous en dire là-dessus ?
Justement, pour voyager à petit budget, l'Europe a mis en place pour les jeunes le pass Interrail qui nous permet de voyager à petit prix en train. Donc, c'est un pass, en fait, pour les 18-25 ans. Et c'est aux alentours de 300 ou 400 euros par là. Et du coup, on peut voyager pendant un mois dans toute l'Europe en train. Moi, j'ai eu la chance, à mes 18 ans, de pouvoir m'inscrire au sein de l'Union européenne pour pouvoir gagner ce pass. Et du coup, pour tous les jeunes de 18 ans, ils peuvent s'inscrire et avoir la possibilité de pouvoir remporter, du coup, un voyage et, du coup, de ne pas avoir les frais de train à payer. Et je trouve ça vraiment bien et super intéressant parce que du coup, ça peut permettre aux jeunes qui n'ont pas forcément beaucoup de sous de pouvoir faire un grand et beau voyage et du coup, de pouvoir découvrir ce que c'est l'Europe et de pouvoir sortir de notre magnifique pays. Et du coup, tout en voyageant en train et de pouvoir faire sept destinations. Moi, j'ai pu aller en Allemagne, en Autriche, en République tchèque, en Slovénie et en Hongrie. Et c'était super. Et aussi, pour le logement, du coup, je me suis essentiellement logée en auberge de jeunesse, ce qui est super, je trouve, au niveau qualité-prix. Parce qu'il faut savoir les sélectionner parce qu'on peut tomber sur des mauvaises auberges. Mais en général, elles sont toutes bien et c'est pas trop cher et c'est accessible. Et ça nous permet de rencontrer du monde aussi, surtout dans les villes où on voyage. Parce que surtout, pour mon cas, j'étais seule. Et quand on rencontre des gens, du coup, en voyage, bah, ça nous permet d'être toujours moins seuls et de nous faire des amis qui viennent du monde entier. Et du coup, bah, ça nous permet de voyager encore plus à travers eux parce qu'on découvre aussi leurs coutumes. J'ai pu rencontrer des gens de Turquie, de partout en Europe aussi, du Japon. Et du coup, on découvre toujours plus et ça nous permet de voyager encore plus en découvrant du monde.
Et je peux savoir, du coup, le concours se fait sur quel site pour avoir ce pass Interrail ?
Alors, c'est sur le site Discover UE. Donc voilà, c'est pour tous les jeunes de 18 ans.
Et encore une petite question de curiosité. Ce voyage, du coup, il t'a valu combien, vu que t'as pas dû payer tout ce qui était voyage, enfin, tout le transport, quoi ?
Alors, bah, du coup, en enlevant le transport, bah, j'ai juste eu les logements à payer et la nourriture et puis toutes les activités. Et ça m'a revenu à environ 600 euros ou peut-être un peu plus. Voilà.
Pour combien de temps ?
Pour presque 3 semaines. Donc, ce qui est franchement rentable.
Oui. Luna, tu avais peut-être quelque chose à dire sur les voyages petit budget ?
Ouais, carrément. Je pense que si on veut voyager plus ou moins loin, là je mets pas la distance en jeu, je pense que ce qui peut être bien quand on est étudiant, pour ma part, et j'ai un peu fait des expériences, c'est qu'il faut vraiment s'organiser. Si on arrive à s'organiser à long terme et anticiper en fait où est-ce qu'on veut aller, quand et tout, et bah en fait on peut tout de suite trouver des billets de train ou même d'avion, sinon on pense pas écologie comme tout à l'heure. Des billets de train ou d'avion, beaucoup moins cher. Et dans mon cas, j'ai vu que si on veut partir en Grèce et du coup pas y aller en voiture, etc., on peut trouver des billets d'avion pour une quarantaine d'euros aller-retour. Et c'est vachement intéressant parce que soit après on reste dans une optique, comme disait Louise, de voyage, petit budget, étudiant, etc. Et donc après on fait camping, etc., ou dans la nature. Et du coup, on reste dans un budget carrément correct au final, à part si on compte la nourriture, mais ça de manière, on la paye partout, même en France. Hein. Et ou sinon, bah là, du coup, voilà, c'est ça le coût qu'on n'a pas mis dans le transport, et on peut le remettre après dans les activités si on a envie de s'amuser. Et je trouve ça intéressant, et ça, c'est la petite astuce, c'est voilà, savoir quand est-ce qu'on veut partir et anticiper à long terme. C'est pareil pour quand on veut sortir de l'Europe et du coup aller jusqu'au Maroc, etc. On peut trouver des vols vraiment intéressants, surtout qu'après, en finalité, c'est des pays où la vie coûte pas cher. Globalement. Et du coup, on peut se permettre après de pouvoir dépenser son argent autrement sans sortir de notre petit budget finalement. Voilà.
Moi, pour ma part, du coup, c'est vrai que l'organisation, je trouve ça vraiment important. Mais je dirais que c'est très important surtout quand on part dans un pays dans un pays ou un petit peu plus loin. Parce que c'est vrai que, en fait, moi, j'aime bien la découverte et l'inconnu et pas forcément savoir exactement qu'est-ce qu'on va faire pendant telle ou telle semaine et s'adapter en fonction de la météo ou des autres conditions qui vont rentrer en jeu. Et du coup, pouvoir partir pas très loin, mais sans forcément s'organiser, je trouve ça aussi très cool, ouais.
Ouais, voilà, je pense que ça peut se faire, et après, à petit budget, vraiment, si on n'a pas... En fait, tout dépend, en fait, de notre état d'esprit, de jusqu'où on a envie d'aller et quel budget on s'offre, en fait, mais je pense aussi que, du coup, pour éviter d'avoir des vacances trop chères, on peut carrément essayer aussi d'aller comme chez les gens, comme disait Louise, en pleine nature aussi, en fait, il y a beaucoup de gens qui font ça et qui essayent de partir et de rester dans la nature, et ça, du coup, au final, ça coûte pas cher si on essaye de vivre un peu une expérience retour à l'état un peu primaire, et ça peut être rigolo. Je connais des gens qui ont fait ça et c'est intéressant, et c'est faut être capable, mais du coup ça coûte nettement moins cher et ça fait une bonne expérience après, je pense.
Après, sur ce que t'as dit aussi, Luna, avant, ça montre aussi qu'on n'a pas besoin d'être un randonneur ou un fou de la nature pour voyager à petit budget, comme dit prendre son billet d'avion ou de train en avance, ça permet aussi de diminuer les frais pour le voyage, voilà.
Et je voulais rajouter aussi que pour voyager aussi à petit budget, il y a ce qu'on appelle aussi le couchsurfing, ce qui revient aussi un peu... le couchsurfing, ça revient aussi un peu à ce que Luna, elle disait au tout début par rapport à l'émission « J'irai dormir chez vous ». En fait, c'est un site qui nous permet de nous mettre en lien avec des gens qui sont d'accord pour nous accueillir pour une nuit ou plus. Et du coup, ça nous permet de faire des échanges avec les gens qui sont dans les villes ou dans les destinations où on va, et pour nous loger vraiment pour peu cher, et au moins on peut rencontrer des gens qui sont vraiment du pays et de la ville où on va, et je trouve que c'est bien aussi de s'intégrer à 100% dans notre voyage et
pour découvrir plus de culture et en découvrir encore plus toujours.
Bah, carrément. Alors du coup, pour conclure notre émission, j'aimerais encore vous remercier de nous avoir écoutés et nous espérons vous avoir fait réfléchir sur la notion de voyage. Donc au revoir tout le monde.
Au revoir.
Au revoir.
Salut.
Au revoir.
Et on va vous laisser sur une dernière musique qui s'intitule Clandestino de Manu Chao.
Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley. Perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel. Pa' una ciudad del norte yo me fui a trabajar. Mi vida la dejé entre Ceuta y Gibraltar. Soy una raya en el mar, fantasma en la ciudad. Mi vida va prohibida, dice la autoridad. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino por no llevar papel. Perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino, yo soy el quebra ley. Mano negra clandestina, peruano clandestino, africano clandestino, marihuana ilegal. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley. Perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel. Argelino clandestino, nigeriano clandestino, boliviano clandestino, mano negra ilegal.
Je voulais expliquer le métier de M. Sadi, de M. Pesosso. Je voulais que c'est mon nom, je suis navire, car avant de la Chine, c'est M. Mauritania. Je vais vous expliquer le métier de M. Sadi, de M. Pesosso.